Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour et bienvenue à l'émission Cinérama, émission hebdomadaire de cinéma sur Divergence FM. Nous sommes le mercredi 26 octobre. Et bonjour Marine.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Et tout de suite un bonjour à notre invitée Maïté Doliger.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du festival d'animation, du film d'animation de oui. Bayargues qu'on appelle Anima Sud.
Oui, c'est ça.
Voilà, et on va parler longuement avec vous, ça c'est une partie du sommaire. Mais Marine, on va parler de tout autre chose.
On va parler de The Artist aussi et du Cinémède, bien sûr, qui bat son plein en ce moment même.
Voilà, parce qu'il y a un grand festival qui se déroule en ce moment, c'est le Cinémède, avec plus de 250 films. On verra aussi que le festival Anima Sud de Bayargues, qui commence la semaine prochaine, est bien fourni. Voilà, donc ça fait une grosse actu. Cinéma.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron.
Voilà, c'était juste une petite respiration hein, pour commencer à parler avec vous, Maïté Doliger. Là, c'est Chico et Rita,
oui.
Voilà, un film d'animation qui est sorti donc, dans les salles. Donc il y a une vraie présence du cinéma d'animation de plus en plus, j'ai l'impression. Hein.
Oui, de plus en plus. Ben, je pense qu'en plus, le cinéma d'animation gagne aussi un autre public. Il va voir du côté du public adulte et nous, on est contents au festival puisque c'est un peu le fer de lance de notre festival, c'est de dire que le cinéma d'animation, c'est effectivement les Walt Disney, c'est effectivement des films pour enfants, mais c'est aussi des films qui ont été faits uniquement que pour les adultes. Et Chico et Rita, on est une belle... Un bel exemple.
Donc il sera programmé hein, au milieu d'autres films. On reviendra hein, sur les films qui ont été quand même des beaux succès en salle et que vous reprogrammez ben, pour ceux déjà qui l'ont aimé et puis ceux peut-être qui l'ont raté.
Oui, et puis pourquoi des reprogrammations en fait, de quelques films au milieu de nos avant-premières ? Ben, simplement parce qu'ils font partie de la thématique que l'on a choisie cette année puisqu'on aborde la thématique des arts animés, de la peinture à la bande dessinée et Chico et Rita ou Le Chat du Rabbin en sont de bons exemples.
Eh bien justement, on va commencer avec les avant-premières qui concernent bien la peinture animée, c'est le tableau.
Voilà, vous venez de pénétrer dans le tableau. On pourrait croire que le temps s'est arrêté, mais il n'en est rien. Chacun est à sa place et retient son souffle. Le château que vous voyez là-haut entre les branches est occupé par les toupins. En ce moment, tout leur sourit. Ils se croient au paradis. Plus bas, dans l'ombre, au pied de l'arbre bleu, les amoureux enlacés. Vous les voyez ? Ils croient en leur amour. Mais ils doivent se cacher, car Rameau est un toupin. Et mon amie Claire, une pas finie, comme moi. Ah, j'allais oublier. Il y a aussi les reufs. Pour eux, c'est encore pire. On raconte qu'ils ne croient plus en rien. Et oui, ici, chacun voit le monde à sa façon. Bon, je vous laisse. Car j'ai aussi un rôle à jouer dans cette histoire.
Alors, à l'écoute de cette bande-annonce ou de cet extrait, je ne sais pas trop d'ailleurs si c'est une bande-annonce ou un extrait, on a l'impression que le cinéma d'animation, en fait, fait intervenir énormément l'imaginaire, c'est ça, souvent.
Oui, totalement. Et puis, je pense que le cinéma d'animation de Jean-François Laguioni est fondé de toute façon par l'imaginaire. Jean-François collabore avec une scénariste, Annick Leray, qui a son dernier long métrage de cinéma d'animation en scénario, c'est Kiriti, le livre des contes. Donc, ils font vraiment intervenir l'imaginaire dans l'écriture.
Et donc le tableau, c'est une avant-première, donc c'est en présence du réalisateur, parce que c'est ça aussi l'avantage d'un festival, hein, c'est oui. qu'on fait venir ceux oui. Qui font les films.
Et Jean-François Laguioni, pour le rappeler, il y a deux très grands réalisateurs de cinéma d'animation en France qui représentent en plus mondialement le cinéma français, c'est Michel Oslo et Jean-François Laguioni. Et pour la petite histoire, Jean-François Laguioni a créé La Fabrique, qui est un studio qui se trouve à Saint-Laurent-le-Minier, juste à côté d'ici.
Et oui, donc c'est même produit en langue de Roussillon.
Alors, ce film-là n'est pas produit en langue de Roussillon. Et il viendra nous parler de son prochain long métrage, qui, lui, sera produit en langue de Roussillon, Louise en hiver.
Donc ce sera à Bayargues, cette avant-première, ce sera le samedi 5 novembre.
Le samedi 5 novembre à 15h, et on pourra le voir aussi avec toute l'équipe du film au Diagonale le lendemain.
Alors, il y a d'autres avant-premières, ben, je vais vous laisser en parler parce que je ne les connais pas forcément, comme c'est des avant-premières et que c'est plutôt vous la spécialiste du cinéma d'animation. Notamment, y a quand même la présence des Japonais. C'est assez inévitable quand on parle de films d'animation. Hein.
Oui, c'est assez inévitable. Et puis aussi, on a décidé au festival de donner à voir de la bonne animation. Donc là, il y a de l'animation japonaise et de l'animation coréenne. Il n'y a pas forcément que le japonais. En manga, il y a maintenant des mangaka qui sont coréens et qui font des films totalement en fait à part. Il y a de la très bonne animation. Et Colorful, on l'a vu pour la première fois à Annecy cette année. Et on s'est dit que ce film-là, il y a eu très très peu de copies France faites, puisque le distributeur nous a dit que c'est un film qui était très difficile en fait à défendre. C'est un film qui est magnifique. Qui est tout en nuances, mais il va parler de sujets d'adolescence difficiles qu'on n'aborde pas forcément dans le cinéma et encore moins dans le cinéma d'animation. Ces deux sujets, ce sont le suicide et la prostitution. Et oui. Tout cela abordé de façon très très légère et très riche.
Donc quand même un film pour les adolescents.
Pour les adolescents à partir de 13 ans.
Mais je me souviens, il y a des films d'animation quand même qui sont parfois terribles. Hein. Le tombeau des Lucioles,
oui,
même si c'est pour les enfants, c'est normalement pour les enfants, oui, ou les adolescents, il, oui, y a quand même des images très dures. Hein. Oui. On a l'impression que le cinéma d'animation peut être quelque chose de très drôle, léger, et en fait, non.
Mais en fait, le cinéma d'animation, c'est exactement comme le cinéma normal. Enfin, tous les thèmes sont abordés, que ce soit le documentaire, on peut parler de tout dans le cinéma d'animation et même des fois beaucoup plus facilement que le cinéma de prise de vue réelle où certains thèmes ne peuvent pas être abordés.
Mais est-ce que les Japonais justement n'ont pas été les premiers à réaliser des films d'animation pour adultes aussi qui pouvaient vraiment aborder des thèmes beaucoup plus sérieux, beaucoup plus profonds ?
Oui. Oui. Oui, oui, tout à fait. Bah, ils se sont vraiment dénotés de Walt Disney dès le départ. De part aussi le manga est plurigénérationnel. Le manga est arrivé à l'animation et l'anime a ciblé toutes les générations et tous les publics.
Bon, on est presque déçus d'ailleurs de ne pas voir un Miyazaki, mais ils n'en ont pas fait. Hein,
c'est ça. Oui. Voilà. Et puis il y a d'autres, voilà. Mais par contre, on va présenter en avant-première Tatsumi.
Alors, qui est plus heureux, lui, que Colorful, ou pas ?
Oui, adulte aussi. On a une programmation vraiment mixte cette année, mixte totalement enfant et une autre orientée vraiment, vraiment adulte. Tatsumi, en fait, va nous raconter la vie du célèbre mangaka Tatsumi. Et il est intéressant dans le sens où, en parallèle à la vie, au développement de la vie de ce mangaka, on va voir l'évolution du manga au Japon. Donc, le début du manga, la prise, le fait que le manga est de plus en plus intéressé en fait toutes les tranches en fait de la population japonaise, et le fait qu'il reflète aussi l'histoire du Japon puisque ça commence en fait avec Hiroshima, et donc on a trois lectures différentes dans le film.
Donc ça, c'est une avant-première, encore une fois. Voilà. C'est le jeudi 10 novembre à 20h30. Oui. Donc c'est toujours à Bayargues, ça, Pierre Puot.
C'est Claude Plan.
Claude Plan, oh là.
Oui. C'est Claude Plan à Bayargues, mais c'est la seule salle de cinéma sur Bayargues.
Alors après, il y a une autre avant-première, oui, on peut en parler, parce que là, c'est pour les enfants. Là, vous avez dit, vous faites une séparation.
Ouais.
Et là, c'est pour les enfants à partir de 2 ans. Et on s'éloigne encore, j'imagine, de Walt Disney avec cette avant-première. C'est Gros Pois et Petit Point.
Oui, Gros Pois et Petit Point. Alors bon, en Suède, il y a de très, très grands réalisateurs de cinéma d'animation, dont ceux-là s'appellent Uzi et Lotta Geffenblad. Et ils donnent toujours à voir des films qui sortent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, qui ne sont pas gnangnang, qui ont quelque chose en fait à apprendre, qui ont un réel parti pris artistique. Et en plus, les personnages sont assez drôles. Ils ont un petit côté lapin, pas lapin crétin, mais un petit côté lapin niais qui inspire la sympathie.
Voilà, en tout cas, quand on dit que c'est pas gnangnang, ça veut pas dire non plus que c'est très sérieux.
Non.
Enfin, voilà, il y a une juste mesure qui, oui, est trouvée pour parler aux enfants. C'est vrai, oui, qu'on n'est pas obligé de faire tout un tas de simagrées, comme on dit. Mm.
Et d'un point de vue technique aussi, apparemment, vous proposez vraiment une variété d'animés, dans le sens où toutes les techniques de dessin sont représentées, des plus primitives, entre guillemets, aux plus récentes.
Bah oui, on aime à donner à voir la diversité de ce cinéma, qui est vraiment un cinéma qui est en mouvement, et un cinéma qui est artistique, et encore plus cette année, puisque c'est les arts plastiques et la peinture dans l'animation. Et d'ailleurs, on fait un petit focus sur nous, un réalisateur qu'on aime énormément au festival, qui s'appelle Muto, et qui fait des performances. Alors lui, c'est un réalisateur qui est italien. Il investit les cités, il investit les villes et il peint. Il peint des peintures monumentales sur les murs et il en produit des films d'animation. Voilà, donc le graphe maintenant commence à s'animer et c'est intéressant justement d'arriver. C'est un art qui est en perpétuelle mouvance, l'animation.
Muto, on peut voir plein d'images sur Internet. Oui. Il a fait plein de clips, effectivement.
Exactement.
C'est assez impressionnant.
Oui.
Donc, vous allez en diffuser combien, en projeter combien?
Alors là, on va projeter son dernier film, plus après d'autres films de grands réalisateurs, comme le dernier George Schwitzgebel, enfin après des très très grands réalisateurs de cinéma d'animation qui nous ont fait l'honneur cette année au festival, et on n'est pas peu fiers de présenter leur film en avant-première, dont Romance justement de George Schwitzgebel, Les Cordes de My Bridge de Koji Yamamura, qui est en fait, lui, on peut dire, le fer de lance de la nouvelle génération d'animateurs japonais qui est mondialement reconnue.
Alors on a parlé de La Fabrique, on va parler d'un film d'animation qui est produit en région.
Je vis dans la Seine, mais je ne suis pas né poisson. Non, depuis plusieurs années, elle me traîne. Elle me sème doucement, je me répands dans son sein, au gré des algues, des excréments. Ah, les ordures, il y en a partout. Mon lit, une lit, oui. Et moi, maintenant aussi. Une pourriture, sans doute. Depuis le temps. Combien, déjà? Avant, j'étais un homme. Un homme, oui, pour certains. Un déchet, un rebut pour d'autres. Bon à jeter. Fabuleux faciès, Malek S. La chasse facile. Ah, le bon temps pour certains. Pour d'autres.
Alors, ça a l'air aussi terrible, hein, ce qu'on entend.
Mais c'est, il y a des choses plus légères au festival, voilà. Mais oui,
c'est pas rien, hein, parce qu'on arrive au mois d'octobre, le 17 octobre, ouais. 1961, ouais. Il y a eu un massacre avec des Algériens qui ont été jetés dans la Seine. Donc c'est un espace de commémoration. Ce film d'animation a été fait par Aurel, donc, qui est un
Aurel,
dessinateur.
Voilà, Aurel et Florence Corps.
Et Florence Corps. Ouais. Et produit en région.
Oui, le film a été produit en région et fait à La Fabrique. Le fameux, la boucle est bouclée, on parlait de Jean-François Leguioni qui a créé La Fabrique. Bah voilà, ça c'est les derniers, on présente les derniers courts-métrages produits à La Fabrique, dont ce film-là.
Alors, Aurel sera présent ou pas?
Oui.
Voilà, parce que je crois que c'est la première fois qu'il fait un film d'animation.
Oui,
Oui,
c'est la première fois, donc c'est un film engagé. Donc c'est pas, c'est, je pense qu'il faut saluer le courage de commencer l'animation ou de commencer son premier film par des films à discours politique engagé.
Mais voilà, bon, en même temps, hein, le 17 octobre 1961, on n'en parle que depuis très peu de temps.
Oui.
Et on ne sait pas encore tout, oui. Sur cette histoire.
Je pense que d'ailleurs, les spectateurs de Cinémed ont déjà pu le découvrir en salle.
Tout à fait, avec un autre documentaire ce soir au Diagonal, j'ai oublié le nom, mais avec une réalisatrice qui a aussi travaillé sur cette mémoire. Hein,
oui.
Voilà. Alors, il y a sans doute quelque chose dont vous avez envie de parler, c'est les courts-métrages que vous mettez en avant.
Oui, les courts-métrages, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est réellement des petits chefs-d'œuvre, en fait, des artistes qui ont choisi. Nous, on a fait ce focus justement sur la peinture animée, qui est en fait c'est certainement la technique qui va demander le plus d'investissement, le plus de mise en danger pour un artiste. D'ailleurs, on dit à chaque fois que les artistes de cinéma d'animation qui utilisent la technique de la peinture animée font toujours des courts-métrages qui sont sur le fil. C'est énormément de travail, d'investissement, de création. Et à chaque fois, ils ont des univers qui sont totalement différents. On va donner à voir un film qui est connu, peut-être pas du grand public, qui s'appelle Mona Lisa, Descending a Staircase de Joanne Gratz, qui, pour la petite histoire, va faire... C'est un film qui date de 92 et c'est un voyage autour de 30 œuvres des grands peintres et des grands tableaux contemporains. Et elle l'utilise comme technique quasiment la peinture animée, mais dans une forme peut-être dans une forme de morphing, en fait. Ça, c'est assez étonnant. Évidemment, le Big Bang Boom de Blue qui est à découvrir à ne pas louper, et puis bien d'autres encore comme Les Cordes de My Bridge, plus de 35 courts-métrages totalement différents qui, comme des peintures, vont happer le spectateur et les amener dans des univers totalement différents.
Donc ça, c'est à plusieurs moments dans le festival.
Oui, on peut aller voir. Généralement, les séances du festival sont proposées deux fois. Alors cette année, on le verra donc le dimanche 6 novembre et le mardi 8 novembre à Bayargues. Et la troisième semaine de novembre, le théâtre de Villeneuve-les-Maglones ouvre les portes pour la première fois au festival. Et nous présenterons aussi les grands maîtres de la peinture animée, où là, on pourra voir l'excellent film qui a eu un Oscar, Le vieil homme et la mère d'Alexander Petrov. Pour la petite info, Mona Lisa a aussi eu un Oscar.
Mmh. Ah oui, ça c'est... Oui. Plutôt pas mal.
Oui.
Et puisqu'on parle de Villeneuve-les-Maglones, moi je me souviens avoir vu, c'était il y a 3 ans je crois, une séance à Palavas-les-Flots.
Oui.
Il y en avait à Montpellier, ça c'est conservé ?
Oui, on fait toujours des festivals hors les murs. Donc cette année on est sur Montpellier, donc au Diagonale, avec 2 avant-premières. On passera Colorful et évidemment Le Tableau avec l'équipe du film. Hein. Il y aura Jean-François Laguillonni, Annie Cleret, la scénariste, et puis Jean Palinstein qui est le chef décorateur. Nous aurons des séances décentralisées à Villeneuve-les-Maglones la troisième semaine, où on passera Piano Forest, plus les grands maîtres de la peinture animée, et puis 2 courts-métrages pour les plus petits, et des séances décentralisées au Vigan et un petit peu partout.
En tout cas, vous trouvez toutes les infos sur internet. Le site, c'est
www.festivalbayargues.fr.
Alors, on continue un peu dans la programmation.
Je me demande s'il n'y aurait pas une jolie princesse.
Oh oui, faisons une vraie féerie. Je suis à vous corps et âme.
Et ce soir, nous irons tous les deux nous promener au clair de lune.
Non ! Je renonce à ta voix !
Vite !
Mais ton freluquet d'amoureux ne t'aura pas non plus.
Vite, c'est une galerie secrète.
Je vais escalader cette forteresse.
Zacharia, le sorcier, va vous tuer.
Loup, sorcier. Qui es-tu ? Je crois rêver. Mon prince.
Maïté Doligé, directrice du Festival de Bayargues, c'est un réalisateur que vous aimez bien, hein, Michel Oslo.
Oui.
C'est le chouchou un peu aussi.
Oui, c'est forcément Michel Oslo. Il est présent depuis les débuts du festival, à l'époque où il n'était pas encore très reconnu. Il a fait ses premiers courts-métrages à La Fabrique. C'est un grand monsieur du cinéma d'animation et pour en parler, je vais le citer. Je pense qu'il faut lui laisser ses mots. Alors, mes plus grandes émotions de spectateur sont peut-être dues à des courts-métrages dans les films, dans les festivals d'animation. Parce que les courts-métrages d'animation que j'aime sortent des tripes d'un individu à moitié cinglé comme moi, qui sait qu'il ne fera jamais fortune avec ses productions, qui seront vues par relativement peu de monde. Il fait un travail sans compromis, sans autre pression que celle de son besoin impérieux de créer. Je pense que ça représente totalement Michel Oslo, qui fait un cinéma qui lui ressemble. Et il ne vend pas son cinéma au commerce, tout commerce, simplement.
Ouais. Hein, même si Kirikou, alors forcément, hein, Kirikou, ça a plutôt bien marché. Il y a eu un spectacle Kirikou, musical ensuite. Voilà.
Oui, mais
il y a eu un vrai
pas du tout commercial. Kirikou, pour la petite histoire, il a été, il s'est battu aux États-Unis. On lui a dit ah, mais non, mais cachez-moi ces cinq, on ne saurait voir pour les Africaines. Enfin, c'était non, mais Kirikou n'était pas du tout connu au début. Peu de programmation dans les cinémas. Un gros. On peut dire buzz, même si le mot n'existait pas à l'époque au niveau des festivals, et ça a fait le succès de Michel Oslo.
Ouais,
et
ouais.
Il a un style, mais il a réussi à créer son style.
Et un vrai style, hein, parce qu'au moment où on voit encore Disney, Pixar, qui font du 3D, lui, il fait du découpage en ombre chinoise. Hein,
oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, Les Contes de la Nuit existent en 3D et en 3D relief, mais il s'est servi de cette technique, puisque tous les réalisateurs, évidemment, utilisent maintenant les nouvelles techniques pour leur production, mais ne sont pas esclaves de cette technique, c'est-à-dire que les nouvelles techniques, comme le relief, viennent au service de leur film et non pas l'inverse.
Voilà, c'est un petit plus quand même.
Oui, complètement.
Mon maître, c'est le rabbin Sfar. Moi, je n'ai pas de nom, mais sur le port d'Alger, dans la Casbah, on m'appelle le chat du rabbin. Zlabia, c'est ma maîtresse. Son nom, on dirait une pâtisserie au miel.
Le monde fut créé par l'Éternel, notre Dieu, en 7 jours, il y a 5700 ans et des poussières.
Mais c'est ridicule! Avec le carbone 14, on peut prouver scientifiquement que le monde existe depuis des milliards d'années.
Tu donnes des noms scientifiques aux choses et monsieur, il croit qu'il a compris.
Même un chaton ne croirait pas ces imbécilités.
On devrait te noyer tout de suite!
Moi, je suis ma maîtresse et je ne serai jamais seul car je mourrai avant elle.
Oh, mon petit amour.
T'aimes plus le chat que ton père, toi, hein?
Ne pas te laisser cette bête.
Peut-être il est dangereux.
Hé, vous venez, on va envahir l'Afrique.
Traverser l'Afrique pour trouver Jérusalem, n'importe quoi.
J'ignorais qu'il y eut des Israélites aussi loin en territoire nègre.
Il nous prend pour des demeurés. Hé, chef, toi, y'en a pas griffé, moi. Ça suffit.
On est encore tombé chez des dingues.
Ouh là là, c'est super. Hé, les amis, quand le monde aura fini, je pourrais faire ma bar mitzvah, moi aussi.
Tiens, rends-toi utile.
Oh, combien le péril enrichirait les dieux.
Les dieux?
Oui.
Non, ça va pas.
Bien, le chat, la belette et le petit lapin, ça vous va?
Oui.
Non, parce que si vous voulez, je peux chercher une fable qu'avec des animaux cachers.
Humour savoureux, hein, quand même, pour ce film de Joas Farr. Le chat du rabbin qui est sorti en juin sur les écrans et que vous reprojetez avec bonheur.
Bah oui, mais comment ne pas projeter le film quand on fait un panorama aussi sur la bande dessinée. Donc là, les amoureux de Sfar vont pouvoir se régaler à retrouver, animer les bulles et l'atmosphère
De la BD, hein,
complètement.
Qui s'écrit en 4 ou 5 tomes.
Oui, c'est ça. Et donc là, c'est un condensé. Donc on est un peu frustré quand on aime Sfar et qu'on lit les BD, que tout soit condensé. Mais à la fois, ça fonctionne. Et c'est aussi bavard que les BD de Sfar, donc c'est bien.
C'est très bavard. Hein, mais
c'est
bavard. On s'en rend compte avec la bande-annonce. Et par contre, la fin est complètement inhabituelle hein, dans un scénario, je dirais, classique. Hein.
Oui.
Voilà. Ça se termine un peu en queue de poisson, mais c'est une vraie surprise. Voilà, on peut le dire comme ça. Merci beaucoup, en tout cas, Maïté Doliger, de vous être déplacée de Bayargues. Le festival, il débute le 31 octobre,
du 31 octobre au 13 novembre cette année.
Et puis, donc, l'invité d'honneur, c'est Jean-François Laguilloni. On en a déjà parlé.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Le prix des séances, peut-être?
Oui, tout à fait. Donc, les séances sont à 5 euros les tarifs pleins, 4 euros les tarifs réduits. Le pass total festival est à 40 euros. Et il y a des passes 5 places pour les familles qui veulent découvrir 5 séances. Voilà. Puis nous avons après d'autres invités, donc des invités régionaux, des réalisateurs et une réalisatrice qui vient du Canada, Marie-Hélène Turcotte, qui sera là pour nous présenter son dernier film d'animation.
Voilà, et sachant que pour certaines séances, hein, il est préférable, notamment pour certaines avant-premières, de réserver.
Ah oui. Il faut maintenant réserver. Voilà.
Et puis, chers auditeurs de Cinérama, si vous voulez gagner des places, alors ce ne sera pas possible d'en faire gagner dans cette émission pour des raisons absolument techniques et de trous temporels, mais vous pourrez en gagner bien tous les jours de 12h10 à 12h30. Donc ce sera jeudi, vendredi et peut-être lundi, mardi. Enfin voilà, tant qu'on n'aura pas épuisé le stock que vous nous avez donné, Maïté,
oui. Eh
bien nous ferons gagner quelques invitations pour ce festival qui dure quand même depuis 26 ans, ce qui est pas mal.
Oui, c'est un des plus anciens festivals de cinéma d'animation de France et du monde.
Voilà, et vous n'êtes pas peu fiers.
Bah oui, on n'est pas peu fiers quand même d'avoir 26 ans d'existence, ce qui est bien pour un festival.
Alors avant de retrouver une chronique de The Artist, par toi Marine, hein, que tu es allée voir, donc on va quitter l'animation, et pour le muet finalement, c'est aussi un peu à part. On va écouter donc un extrait de la bande originale du film Les Triplettes de Belleville, autre grand succès de l'animation, et ça parle de chez nous.
Est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Voilà, donc on quitte le cinéma d'animation pour revenir au cinéma avec des vrais acteurs. Et quels acteurs ? Alors, bah, les films en 3D, les dialogues nombrilistes et les jeux d'acteurs nihilistes, revenons à la base, le muet. Et n'ayons pas peur en 2011 de retourner aux racines du cinéma. Alors, quand je dis « on », je me permets quand même de noter que The Artist ne semble pas toucher toutes les tranches d'âge. Si j'avais mis une bombe dans la salle, j'aurais sans doute causé un trou dans la courbe démographique de la ville puisque j'avais avec moi toute la population des maisons de retraite montpellierennes. Pourtant, le film de Michel Hazanavicius ne se veut pas élitiste ou réactionnaire mais adopte un ton aussi libre que drôle qui en fait un pastiche osé mais réussi. Puisque tout le monde n'a pas eu la chance de faire des études de cinéma et de passer de longues heures enfermées à regarder les pépites du cinéma muet de Hollywood, The Artist se charge de nous faire une bonne introduction à la matière. L'histoire est très, voire trop simple. Une vedette des années 20, Georges Valentin, rencontre Pepi Miller qui rêve de devenir célèbre. Le cinéma parlant et le crash boursier vont réduire sa carrière à néant, tandis que la jeune fille devient figurante, puis actrice et enfin star mondiale. Il s'agit là d'une parodie au sens strict du terme. Azanavicius ne tombe jamais dans la caricature ni dans la moquerie, mais reprend à la perfection les éléments techniques et esthétiques du muet pour en faire un hommage on ne peut plus vivant. Peu de chance tout de même que le film ait triomphé sans Jean Dujardin. Il fallait bien l'acteur pour obtenir ce film à la fois rétro et tendance, en un mot vintage. L'acteur exploite au maximum son potentiel et prouve qu'il est un des rares comédiens français à pouvoir porter un rôle à la fois physique, comique et émouvant. Sa performance trouve totalement sa place dans une mise en scène très soignée, qui ne s'arrête pas à l'imitation maîtrisée et nous surprend sans cesse par des trouvailles visuelles que Murnau aurait appréciées. Même si on doit reconnaître que l'on n'aurait pas été contre quelques dialogues par-ci, par-là, The Artist est un film audacieux et séduisant qui nous rappelle avec bonheur que c'était bien avant. Et donc, on va finir avec la bande-annonce. Ne cherchez pas les dialogues, il n'y en a pas. C'était la bande-annonce donc de The Artist qui est encore en salle absolument partout, hein, Diagonale, Royal, Gaumont. Je pense que vous allez encore pouvoir le voir pendant un petit moment.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Et nous allons, après avoir parlé donc du festival d'animation Anima Sud qui commence simplement le 31 octobre, nous allons parler maintenant du 33e Cinémed. Il bat donc le Festival d'Anima Sud qui existe depuis 26 ans, hein, voilà, parce que là ça fait 33 années déjà que dure ce Cinémed, Festival du cinéma méditerranéen qui se déroule au Corum mais pas seulement, hein, puisqu'il va jusqu'au Rabelais, jusqu'au Diagonal et même à l'Utopia. Et donc bien, on a un peu traîné nos souliers, hein, par là-bas.
Oui, on a été voir quelques courts-métrages, pour ma part, quelques longs-métrages en compétition également. Et justement, donc moi j'ai commencé pour ma part le festival très fort avec la projection du film Les femmes du bus 678 de Mohamed Diab, que l'on verra sur nos écrans au printemps 2012 puisqu'il sera distribué par Pyramide. Détail notable étant donné que peu de films du cinéma connaissent une exploitation suite au festival. Alors les femmes, c'est vrai, il faut le dire.
Ah ouais. Non, je pensais pas. Non. Ah ouais.
Donc les femmes du bus 678, c'est une plongée saisissante au cœur de l'Égypte actuelle, prise dans le double étau de la misère économique et de la religion qui gangrène toujours autant la société. Une culture entre modernité et tradition qui impose des contradictions douloureuses aux hommes et surtout aux femmes. On y suit donc l'histoire de trois Égyptiennes qui, chacune à leur manière, sont victimes de harcèlement sexuel. L'une d'entre elles, Faiza, est confrontée chaque jour à ce problème en prenant le bus et va décider de se venger à sa manière plutôt radicale, soutenue par Seba qui prône l'autodéfense. Ces destins croisés vont tracer le portrait d'une société malade et corrompue, sans prendre le parti de quiconque. Les libéraux ne sont pas plus épargnés que les islamistes, et le film ambitionne davantage de démontrer l'origine du problème que de désigner des coupables. En dehors de l'aspect documentaire, à la fois passionnant et révoltant, le réalisateur, et il est bon de signaler qu'il s'agit d'un homme, parvient à communiquer des émotions universelles et à empoigner le spectateur jusqu'à la fin, sans nous arracher de larmes faciles. Il faut quand même signaler que le film a eu une standing ovation que j'avais rarement, voire jamais vue au Cinémed.
Ça veut dire qu'il aura le prix du public.
Et à mon avis, par au rapport moins. Aux autres films que j'ai vus, je pense que c'est même sûr, il aura quelque chose. Je ne sais pas si ça va être le grand vainqueur, mais en tout cas, il aura forcément quelque chose. On va donc tout de suite écouter l'interview de Mohamed Diab qui nous parle de son film.
شبه صفر لان السيتابه دي كسفت تقول فانا كراجل لو قبل الانترفيوز عن الفيلم ما عرفتش اي حاجه عن القصه
قبل الفيلم ما كنتش
قبل الفيلم كنتش عارف حاجه خالص لغايه لما عملت انترفيوز
Donc avant le film, avant l'écriture du film, bien sûr, il ne sait, comme, en tant que com vivant en Égypte, il avait zéro information par rapport à l'affaire. Donc bien sûr que il y avait les femmes, elles étaient un peu gênées de parler de cette affaire. Du coup, après les interviews et les entretiens, il a pu justement voilà, découvrir la profondeur de ce sujet.
Juste ça. Et pour ça, le film, jusqu'à maintenant, en Mصر, les gars sont très considérés. فابريكيشن تخريف او اختراع من عندي لان الناس اللي حواليهم الستات اللي حواليهم ما بيقولوا لهمش حاجه فعنده نفس المشكله بسبب الفيلم
Donc en Égypte beaucoup d'hommes disent que ce film c'était une fabrication, c'est un scénario, voilà, c'est une fiction, les faits ne sont pas réels parce que pour eux les femmes qui sont autour d'eux ne parlent pas de ce sujet, c'est un sujet vraiment tabou, tout tabou en Égypte. Mais bon, apparemment donc ce film a vraiment commence à avoir un impact.
اقدر اقول كل اللي انا عايزه من غير ما اوصل للدرجه اللي تستفزني
il dit que son film il a pas été censuré, aucune scène a été censurée par l'état ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que quand tu as une renommée, tu as des limites, tu as des frontières qu'il ne faut pas dépasser, et lui il était vraiment à la frontière, donc il a pas dépassé la frontière, donc aucune scène n'a été censurée ou interdite.
Tu t'approches aux البنات اللي موجودين في الفيلم
دي
حصلت مرتين البرسنتج في الاخر لما بروح اي دوله اوروبيه
Donc en fait, il dit que voilà, ça a aucun rapport avec la religion, que c'est pour ça qu'on trouve des pays musulmans où il y a de l'agression, il y a des pays où il n'y a pas d'agression. Donc en fait, c'est une question de loi, une question de législation, c'est-à-dire que il y a des pays où quand tu fais, quand tu agresses quelqu'un, ben tu es puni par la loi. Donc en Égypte.
C'est pas le cas.
Voilà. Donc il dit que voilà, le printemps arabe, c'est vrai que dans les pays arabes, ça, c'est un pas vers le développement et le changement. Donc il dit que ça sera un pas aussi dans le changement par rapport à ce sujet-là aussi.
Et moi, il me semblait que Mohamed m'avait, quand je lui ai demandé l'étendue du harcèlement sexuel, etc., il m'avait dit que ça venait quand même beaucoup d'un problème économique, d'un problème d'argent, parce que les gens n'arrivent pas, les hommes ont besoin de beaucoup d'argent pour se marier, en fait. Et du coup, ils se marient très très tard, ils n'ont pas le droit de toucher aux femmes, etc., avant, et du coup, ça augmente cette frustration sexuelle.
Donc en fait, quand le film a été projeté en Égypte, donc les hommes surtout pensaient que c'était un film où il y avait plein de scènes sexuelles. Donc il y avait plein d'hommes qui sont allés le voir, mais au début donc ils étaient déçus. Après ils ont rigolé, donc ils ont trouvé ça marrant, ils ont rigolé, mais à la fin ils se sont rendus compte de ce qui se passe vraiment, de ce qu'ils font. Et donc à la fin il y avait une certaine un certain calme, et donc les gens, les hommes surtout, à la fin de la séance, il y avait un respect, une peur. Ils laissaient les dames passer. Ils avaient carrément changé de comportement avec les femmes juste pendant, avant et après, après le film. Et en fait, il dit que dans ces 10 dernières années, l'Égypte était soit le premier, soit le deuxième pays à taper porno ou porn dans, sur Google.
Il y a une différence entre la puberté. وانت عندك 14 سنه البلوغ لغايه حاجه 30 في عالم انت شايفه عامل ازاي فالموضوع فعلا صعب.
Donc en fait le sujet il est vraiment justement la frustration sexuelle, c'est vraiment difficile parce que comme nous a dit tout à l'heure, en fait entre comme en Égypte on n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, donc la entre la puberté, c'est-à-dire 14 ans et 30 et quelques ou même 40 ans l'âge du mariage, donc il y a une il y a un décalage énorme.
I know, أنا عارف ناس عيطوا من كتر بيعيط والله العظيم مش بقولها
بيعيطوا من كتر الإحباط. Il connaît des gens qui ont vraiment pleuré tellement ils avaient envie de passer à l'acte parce que c'était ils avaient perdu espoir.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un film sur ce sujet-là ?
ما هي الأسباب التي دفعتك أن تخرج فيلم في على هذا ال.
فأنا كان نفسي أخرج بنفسي ده أول حاجة.
Donc déjà la première raison c'était il avait fait des films en tant que scénariste, donc c'est vrai que le film était bien, mais bon c'était pas lui, c'était pas son film, donc déjà qu'il avait envie déjà de réaliser son propre film qu'il a écrit lui-même. Puis ce sujet là, ce film là précisément, il savait exactement comment filmer les scènes. Tout, en fait, il avait tout dans sa tête, donc il voulait vraiment faire un film d'une manière où les gens, ça sera vraiment quand même un petit peu dans les normes pour pas dépasser les limites par rapport à la société arabe et égyptienne en particulier. Et la dernière chose, c'est que c'est le fait que ce soit un homme qui ait réalisé ce film et ce sujet, parce que si c'était. Il dit que si c'était une femme, ça serait voilà. Ils auraient dit que voilà, c'était que c'est une féministe, que voilà, qu'elle a des positions. Voilà, mais le fait que ça soit le point de vue d'un homme, ça vraiment ça rajoute beaucoup au film. Il a choisi ce sujet-là précisément parce qu'il dit que voilà, que la femme en fait avait besoin que quelqu'un prenne position et prenne sa défense. Il a senti que voilà, que la femme était dans une position de faiblesse et que fallait faire un film pour changer ça. Donc en fait il a passé un an à vivre dans un monde très très féminin, totalement féminin, pour analyser, pour vraiment cerner le sujet de tous les points de vue. En fait c'est pas vraiment un problème que masculin, c'est un problème de société, puisque les femmes aussi blâment d'autres femmes, puisqu'elles sont soit pas voilées ou justement voilées.
But do you think one of the two women are right?
لو هاخد طبعا انا وجهه نظري ان اي حد بيلوم الست على لبسها هو الغلطان. وانا في الاخر الفيلم لو عجب الليبراليين افتكروني مع الحجاب.
Dans ce film les libéralistes lui ont dit que voilà qu'il était pour les voilés, et les voilés lui ont dit voilà qu'il était pour les autres. Donc quand il a vu qu'il a été accusé des deux côtés, il s'est dit que voilà, il est au milieu.
Il était au milieu.
Il était entre les deux.
Ah oui,
voilà, donc simple précision, la troisième personne que l'on entendait était le distributeur justement du film.
Le monsieur de Pyramide,
voilà.
qui a proposé pas mal de films hein, d'ailleurs, lors de ce Cinémed, le film d'ouverture d'Emmanuel Mouret, qu'on retrouvera forcément dans les salles parce que le casting est plutôt bon.
Prestigieux.
Et puis, je ne sais plus ce que j'ai vu, mais j'en ai vu un ou deux de plus.
À noter aussi juste le film espagnol de David Blanco, La Sombra del Sol, que je vous recommande, j'ai plutôt bien aimé.
Mais moi,
je
n'ai pas aimé.
Ah bon, mais... bon, voilà, pour moi, c'est un petit peu le frère caché de Beautiful, de Iñárritu. Ça traite des sans-abri à Barcelone, mais avec un regard totalement différent.
Plus poétique, plus verse dans le surréalisme, au moins dans l'onirisme. Alors moi, c'est ce que j'ai pas aimé. Hein. C'est plutôt cette lumière qui est plutôt tournée vers l'ambiance clip vidéo. Voilà. Moi, je trouve que ça manque de pâte. Alors, j'ai pas vu le film d'Iñárritu. Je sais qu'en discutant avec mes confrères, il y avait beaucoup de comparaisons en se disant, mais c'est quand même plus heureux que ce que fait Iñárritu. Mais voilà, après, moi, le traitement, j'ai trouvé ça un peu faiblard, voilà. Mais c'est vrai que ça donne la pêche, hein. On parle des SDF, mais on a la pêche, après.
Oui, le film se termine quand même relativement mal, c'est pas non plus une comédie légère.
Non, mais on rit quand même.
On rit, c'est vrai. Voilà.
Donc, on parle aussi bien, tiens, d'une comédie. Alors, celle-ci, elle continue à passer pour le festival, puisqu'il y aura une projection le vendredi 28 octobre, salle Pasteur à midi. C'est Man Without a Cell Phone de Sameh Zoabi, qui est un Palestinien, mais qui a fait donc ses études de cinéma à New York. C'est l'histoire de Jawad qui, comme tous les jeunes de son âge, eh bien, veut juste s'amuser avec ses copains, passer des heures à discuter sur son portable et surtout eh bien, trouver l'amour. Mais Jadat, je crois, est un jeune arabe israélien, je ne me souviens plus de son prénom. Il multiplie les rendez-vous condamnés d'avance avec des jeunes filles musulmanes, chrétienne et même juive, et tente désespérément de réussir son test d'hébreu pour enfin entrer à l'université et quitter son petit village. Alors les choses se compliquent quand Salem, son père, cultivateur d'olives, veut qu'il le rejoigne dans son combat contre l'antenne installée dans un champ voisin par la compagnie israélienne de téléphone et qu'il soupçonne d'irradier les villageois. C'est une bonne comédie sur la situation des Palestiniens en Israël qui représente quand même 20% de la population parce que voilà, ils sont alors. Ce qu'on voit très bien dans le film, c'est qu'effectivement, il y a le village des Palestiniens. Après, il y a un village israélien, mais qui est un peu plus loin. Et là où ils mettent l'antenne, bien, c'est chez les Palestiniens, alors que ça bénéficie à tout le monde. Alors voilà, il y a une espèce d'injustice comme ça qui est montrée. Et puis, ce qui était très intéressant dans cette comédie, c'est déjà que c'est une comédie. Et donc, bien, ça peut parler bien, d'une situation sociale qu'on connaît, hein, les Palestiniens et puis les Israéliens. Et en même temps, ça parle du fossé entre les générations, entre les parents qui ont connu 67, les territoires occupés, et puis cette nouvelle génération qui est très à l'aise avec Facebook, avec le téléphone portable, et ainsi de suite. Alors, on a rencontré le réalisateur Sameh Zoabi.
Love has no borders. It's,
donc, il dit que l'amour sans frontières, c'est ce qui motive son personnage principal. C'est ce qui constitue l'ironie, c'est-à-dire de ne pas vouloir voir la réalité. Donc, il dit que l'antenne, en fait, représente les rapports entre les Israéliens et les Palestiniens, et que c'est quelque chose qui s'est imposé. Et que par l'antenne, tout peut être. La colère peut passer, tout est quelque part expiation.
L'antenne est ce qui a amené les deux générations.
Donc il dit que l'antenne est aussi quelque chose qui représente deux générations et qui fait une espèce de pont, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui a 67 ans et puis ce jeune homme qui représente la nouvelle génération universelle. Donc le père représente une génération qui quelque part est bloquée et qui n'arrive plus à avancer et à suivre le monde. Et donc le fils par contre est une génération qui essaye par elle-même, qui essaye d'avancer, de ne pas rester prostré. Donc il parle de la scène de la voiture entre le fils et le père et il dit que pour lui c'est une scène qui vraiment représente ce qu'il veut dire au niveau des générations, c'est-à-dire un père qui quelque part est déconnecté et bloqué en arrière, un fils qui veut avancer. Il a parlé ensuite de
la frustration
et de toutes les obligations sociales aussi par rapport à la communauté et de ce fait que vraiment il y a une déconnexion totale entre les deux générations, mais que malgré tout il y a une société qui grandit et qui doit grandir.
Donc il
explique qu'il n'a pas voulu faire le film simplement pour dire que la vie était difficile, mais pour montrer effectivement cette déconnexion, mais aussi cette envie de montrer qu'il pouvait se passer des choses, que ça pouvait avancer. Et il voulait montrer une façon de faire et une façon de faire exister un personnage qui avance. Justement, le fossé entre les deux générations est complètement appuyé par la technologie. Le fait que les parents ne sachent pas utiliser un ordinateur alors alors que les enfants sont déjà en train d'utiliser Facebook, etc., etc. La technologie appuie encore une fois de plus ce fossé qui est de plus en plus grand.
Voilà, donc c'était Sameh Zoabi avec Man Without Cell Phone. Si vous voulez le voir, eh bien ce sera ce vendredi 28 octobre à midi. Ce sera Salle Pasteur au Corum pendant le Cinémed, parce que là, je ne sais pas s'il va pas trouver quand même un distributeur. Je pense qu'il va trouver un distributeur et qu'il va sortir au printemps. Mais bon, voilà, c'est l'occasion aussi de le voir dans de bonnes conditions du côté du Corum et du Cinémed. De quoi on peut parler aussi à propos du Cinémed ? Eh bien, on peut parler de La Nuit en Enfer. Les vampires méditerranéens, c'est une tradition dans le Cinémed. Il y a toujours bien une programmation de films de série B, voire de série bis. Et cette année, eh bien, c'est le vampire qui a été choisi comme thématique. Et on a rencontré le coprogrammateur de cette soirée, Nima Rafighi. Bonjour Nima. Donc, vous êtes l'heureux programmateur de La Nuit en Enfer pour ce Cinémed. Donc une nuit consacrée aux vampires, c'est bien ça?
Oui, exactement. Alors co-organisateur, hein, parce que c'est surtout Christophe Leparc qui s'est chargé de trouver les films, mais je lui ai suggéré les films. Je lui ai envoyé une liste d'une cinquantaine de films parmi lesquels il a choisi cela.
Alors bien, vers quoi s'est orienté ce choix? Parce qu'effectivement 50 films, ça veut dire que déjà l'histoire du cinéma qui concerne les vampires, bon, c'est assez costaud mine de rien, il y avait le choix.
Dans les 50, alors il y en avait plein qui n'étaient pas disponibles, après les copies étaient dégradées et invisibles, et après on a choisi un peu des réalisateurs que même les gens qui ne sont pas très dans le cinéphile peuvent connaître de nom. Et qui ont quand même, qui sont assez talentueux, comme Mario Bava ou Ricardo Freda, qu'on peut voir à la nuit.
Alors bah justement, on va peut-être rentrer dans le détail. Hein. Est-ce que quelque chose a guidé la sélection et comment va se passer en fait le déroulement de la soirée? Est-ce qu'on commence avec un film léger pour aller vers le vampire érotique? Voilà, comment ça a été travaillé cette histoire?
Ah ben on commence par un film, oui, avec un réalisateur fort honorable, Roberto Mori, Le Massacre des Vampires, qui est très peu connu, qui est, ma foi, bon, c'est un bon film, mais assez léger par rapport à ce qui peut suivre après avec Les Vampires de Ricardo Freda, qui est vraiment un pilier de ce genre de cinéma, qui est important de voir. En fait, on a essayé d'alterner un film grandiose avec un film un peu moins connu et peut-être plus artisanal.
Donc ça, ce sont les deux premiers films. Et après, alors, comment va se passer la suite de la programmation? Parce que c'est jusqu'à 6h du matin.
Voilà, après les autres films, bon, c'est vrai que le troisième film de Jess Franco sera un peu plus érotique, avec des plans très suggestifs. Donc vous verrez bien des gros plans, des parties du corps féminin. Ensuite, on revient à Mario Bava, un peu plus classique, Baron Vampire, avec un travail, notamment au niveau de la lumière, assez formidable. Et puis on finit par un Jean Rollin, un peu un cinéaste maudit, mais qui a fait une cinquantaine de films à lui seul sur le thème du vampire, avec aussi des scènes érotiques assez osées.
Alors si on prend le cas de Jean Rollin, par exemple, est-ce que c'est pas un peu trop obsessionnel, finalement, de prendre toujours ce thème, hein, enfin, ce genre très particulier qu'est le vampire? Il aurait pu s'attaquer aussi aux morts vivants et à que sais-je.
Mais c'est vrai que Jean Rollin, déjà, il écrit beaucoup de bouquins sur ce thème-là, la mort, les vampires, ça le fascinait. Et c'était son thème de prédilection. Oui, ça peut être une obsession, mais entre ces films de vampires qui marchaient plus ou moins bien, il faisait 2-3 films pornographiques pour avoir des sous et pour faire son film suivant sur le même thème du vampire.
Alors Nima, quel est le trait commun finalement entre ces 5 films? Est-ce qu'on peut trouver un point commun entre, si ce n'est les vampires évidemment?
Alors on va dire que c'est sur des films des années 50 à 70, donc ils ont quand même une ambiance assez commune, une ambiance très latine, puisque c'est des films espagnols, français et italiens, et ils sont très différents, ils puissent leur inspiration du cinéma anglais. Mais en même temps, vous allez voir qu'il y a une particularité au niveau de la mise en scène, beaucoup d'utilisation de zoom et des plans atmosphériques qui sont très typiques de ce cinéma-là. Et le point commun, à part l'ambiance, souvent c'est dans des lieux ou des châteaux en Allemagne, avec des barons allemands typiques de cette littérature-là. Non, après, des jeunes femmes dénudées et du sang très rouge, écarlate, surréaliste, mais néanmoins très en hommage à la peinture.
Voilà, donc soirée sanglante et libidineuse, ce sera au Salle Rabelais à partir de 20h ce vendredi. Et puis, eh bien, ça dure jusqu'à 6h du matin. Alors évidemment, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Je crois que le prix de la place est de 15€. Et nous écoutions donc Nima Rafighi, qui est aussi, alors il est programmateur effectivement de cette soirée, mais il réalise lui aussi des films de cinéma bis. Voilà.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
Alors forcément, bien pour terminer cet agenda, on va parler du Cinémed, hein, puisque c'est un peu l'actu en ce moment. À noter demain, une rencontre publique avec Roche Dizem, Samy Bouajila et Pascal Elbé. Voilà, trois pour le prix d'un. Ce sera à l'espace Joffre à partir de 11h. À noter aussi, eh bien, que pendant toute cette fin de semaine, il y aura une rediffusion, une reprojection des films de ces trois comédiens, hein, parce que je crois qu'il n'y a pas d'avant-première les concernant. On pourra trouver notamment Ma Petite Entreprise, très bon film de Pierre Jolivet. On pourra voir Le Petit Lieutenant, dont on a parlé la semaine dernière, hein, à l'occasion du Blind Test. Très bon film, cette fois-ci avec Roche Dizem comme acteur. Et puis il y a La Faute à Voltaire aussi, hein, premier film de Abdelatif Kechiche. Et puis bien d'autres. Vous pouvez consulter évidemment le programme sur cinemed.tm.fr. On peut quand même parler bien de ce qui se passera au Diagonal ce soir. C'est la projection du film Ici on noie les Algériens, 17 octobre 61. Donc on en a aussi parlé en début d'émission, mais avec un film d'animation. La séance sera suivie, eh bien, d'un débat avec la réalisatrice, donc Yasmina Hadi. Ce jeudi à 20h, Corpo Céleste d'Alice Rochevacher, c'est dans le cadre du Cinémed aussi. Et puis sur la planche de Leila Kilani, ça aussi c'est dans le cadre du Cinémed, ce sera ce vendredi à 20h. Il était une fois en Anatolie, ça c'est une avant-première film de...
Muri Bilgselan.
Bilgselan, on dit Bilg.
Bilgselan.
Bilgselan, donc réalisateur. Turc talentueux.
Hein, qui avait déjà montré Les Trois Singes d'ailleurs au Cinémed il y a 3 ans de ça.
Je crois que c'est un habitué. Hein, puis, voilà. Et en plus, il a une bonne cote, hein, au niveau du Cinémed. Alors il fait des images très très léchées. Je crois que ça dure plus de 2 heures comme ça de belles images d'Anatolie. Voilà. Mais j'en ai entendu du bien en tout cas pour ceux qui ont eu le plaisir de le voir. Et ainsi s'achève d'ailleurs cet agenda.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Merci, Marine, pour cette émission.
Merci, Vincent.
Voilà, donc on va continuer à faire les reporters.
Oui, on va rester sur le cinéma jusqu'à la fin, jusqu'au palmarès. On vous en parlera encore la semaine prochaine.
Et n'oubliez pas les places à gagner pour le Festival de Bayargues entre midi et 12h30 sur Divergence. Merci à Bruno.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.